La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
L'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, va sortir dans les heures qui viennent de la prison de Tokyo où il vient de passer plus de 100 jours.
Oui, nous vous l'annoncions sur France Culture dès hier matin quand le grand patron français a vu sa troisième demande de libération conditionnelle finalement acceptée par la justice nippone contre le versement d'une caution d'un milliard de yens, soit environ 8 millions d'euros. Alors la somme peut paraître colossale à l'image des rémunérations passées de Carlos Ghosn, des sommes qu'il est accusé d'avoir caché au fisc et des avantages dont il aurait bénéficié personnellement aux frais de son groupe, mais ce n'est pas la plus chère caution dans l'histoire judiciaire du Japon, précise d'emblée le Sankei Shimbun, quotidien japonais, donc selon qui ce n'est pas non plus la plus longue période de détention provisoire, puisque le record en la matière, c'est 437 jours pour un député, Munio Suzuki, accusé de corruption et qui niait les faits, tout comme d'ailleurs Carlos Ghosn. Tout ça pour dire, avec la agence Kyodo News, qu'au Japon, les juges ne plaisantent pas avec ces affaires-là. Et la norme là-bas, c'est clairement qu'un mis en examen reste en cellule le temps de l'instruction ou tant qu'il ne coopère pas, et peu importe sa richesse ou sa notoriété. La libération conditionnelle de Carlos Ghosn constitue donc clairement une exception, un précédent révolutionnaire même, selon un éminent avocat nippon cité par le Wall Street Journal, lequel nous explique tout de même que le nouvel avocat de Ghosn, surnommé le rasoir au Japon pour son talent à faire acquitter ses clients, cet avocat donc a dû faire des concessions pour que l'homme d'affaires français soit libéré. Tout à l'heure, il passera donc de sa cellule de 6 mètres carrés à l'assignation à résidence dans une maison qui a été au préalable validée par l'administration pénitentiaire, sans possibilité de contact par téléphone ou par internet avec l'étranger, sous surveillance permanente de caméras et sans pouvoir bien entendu quitter le Japon. Voilà pour rassurer donc les juges qui veulent à tout prix éviter que l'ex-PDG ne puisse fuir, détruire des preuves ou s'entendre avec d'autres protagoniste du dossier, mais c'est tout de même un traitement de faveur exceptionnel qui est accordé à Carlos Ghosn, confirme le Sankei Shimbun, et ce n'est pas sans lien avec l'aura internationale du prévenu. Le monde entier est aux premières loges de la disgrâce de l'ancien tycoon, de ses conditions de détention, de la sévérité des juges japonais. Le Wall Street Journal fait la même analyse en expliquant que depuis quelques semaines, les éditorialistes de l'archipel, eux aussi, se sont émus de l'image renvoyée par leur système judiciaire, critiquée un peu partout pour ses méthodes soi-disant moyenâgeuse, et c'est cette pression internationale savamment orchestrée par la défense du milliardaire qui a donc payé aujourd'hui. Mais Carlos Ghosn risque toujours, il faut le dire, 10 ans de prison dans un procès qui ne devrait pas avoir lieu avant au moins 6 mois.
Moins d'une semaine après l'échec du sommet États-Unis-Corée du Nord de Bangkok, les journaux américains sapent le peu d'espoir, Camille, qu'il restait sur un véritable désarmement nord-coréen.
Oui, dans le Washington Post, par exemple, on trouvera ces images satellites du site de lancement de fusée de Sohae, tout près de la frontière chinoise. On est donc en Corée du Nord et l'on y observe depuis samedi dernier d'étonnants mouvements d'engins de chantier, une reprise des activités sur ce pas de tir donc, qui était censé avoir été en partie démonté l'été dernier par le régime nord-coréen en signe de bonne volonté à dénucléariser. Alors il faut bien préciser, comme le fait une experte du programme nucléaire nord-coréen dans le Poste, qu'on ne peut pas dire précisément si ces travaux ont repris immédiatement après l'échec du sommet de Bangkok la semaine dernière comme un signe très clair de provocation envoyé à Donald Trump, ou bien si la relance de ces travaux de rénovation sur le site de Sohae date d'avant Bangkok et elle a été accélérée depuis. En tout cas, analyse le quotidien américain, ça en dit long sur l'attitude de Kim Jong-un dans ce processus. Au-delà des discours, la réalité, c'est que Pyongyang poursuit ses activités en ce qui concerne la préparation du lancement d'engins spatiaux. C'est la vocation officielle du site de Sohae et cela utilise la technologie de propulsion de missiles transcontinentaux qui est censée être bannie mais qui est donc toujours d'actualité. Idem complète le journal de Séoul, Chosun Ilbo, de l'enrichissement d'uranium par la Corée du Nord. Des informations livrées par l'AIEA confirment que la construction du réacteur nucléaire à eau légère de Yongbyon, toujours en Corée du Nord bien sûr, n'a pas cessé comme cela avait également été promis. Et sans ce nouveau réacteur, même sans lui, Pyongyang continue à enrichir de l'uranium, s'inquiète le Chosun Ilbo, de quoi produire 2 ou 3 bombes nucléaires par an selon des experts américains, cités cette fois par Voice of America. Et c'est finalement le New York Times qui résume résume la question. Que reste-t-il dès lors du moratoire nord-coréen sur le lancement de ses missiles à longue portée, Little Rocket Man, comme Donald Trump avait surnommé Kim Jong-un avant d'en faire un partenaire, n'a apparemment pas joué sa dernière carte.
Et donc le sommet qui s'est déroulé au Vietnam et pas à Bangkok n'a servi à rien.
C'est
Camille,
vrai.
Beaucoup moins explosif, mais véritablement préoccupant, des ânes qui meurent par milliers dans le désert du Niger.
Oui, ça n'a rien d'anecdotique, nous dit le site d'info nigérien News Central. Dans un pays qui compte 1,5 million d'ânes, le rôle de ces animaux est irremplaçable dans l'entretien des cultures, dans l'acheminement de l'eau ou le transport des marchandises. Depuis décembre dernier, depuis à peine plus de 2 mois, donc plus de 4000 ânes ont été terrassés par la gourme équine, une bactérie de type streptocoxique qui s'attaque à la gorge des ânes et les tue environ une fois sur deux. D'autant plus préoccupant que cette infection se transmet très facilement, très rapidement. Nous sommes vraiment face à une hécatombe, déclare chez nos confrères de RFI un dirigeant de l'agence de redynamisation de l'élevage au Niger, car cette angine foudroyante du cheval menace de fragiliser toute la société paysanne nigérienne. L'âne y occupe, nous dit-on, une place stratégique dans le système pastoral, le nomadisme. Sans lui, on ne peut rien faire, lit-on sur RFI.fr. Alors on tente comme on peut d'endiguer cette bactérie tueuse. Une campagne gratuite de vaccination a été lancée, mais la région désertique ne facilite rien et les craintes d'une transmission de la maladie à l'homme ne sont pas exclues, comprend-on en lisant cet article de RFI.
Merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.